carrefour des arts. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Christa Leuc.
Carrefour des Arts est heureux de vous offrir un volet centré sur les nativités et les adorations des mages ou des bergers. Et nous sommes enchantés de recevoir Marianne Dupuy-Vacher dans nos studios de Canal Académie. Madame Dupuy-Vacher, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes historienne de l'art. Vous avez travaillé durant de longues années au Musée du Louvre. Vous avez sélectionné pour nous un certain choix de tableaux. Nous sommes impatients de découvrir avec vous les merveilles et les mystères de la nativité à travers les pinceaux de Caravage, de Georges de la Tour, de Philippe de Champaigne, de Le Nain, de Rubens ou encore Zurbaran. Alors commençons logiquement, ou plutôt chronologiquement, par la première moitié du XVIIe siècle, avec Caravage, qui se nommait Michelangelo Merisi, qui est né près de Milan en 1571 et qui est mort
à Caravaggio.
Caravaggio,
d'où son nom,
et qui est mort à Porto Ercole en 1610. Vous allez nous parler aujourd'hui de l'adoration des bergers qu'on trouve au Museo Nazionale à Messine en Sicile.
Oui, c'est un grand tableau qui fait 3,14 m par 2,11 m. C'est un grand tableau sombre de Caravaggio, peint à la fin de sa vie, juste avant qu'il ne meure sur les plages de Porto Ercole, sur le chemin de retour vers Rome. Il peint ce tableau alors qu'il est en Sicile, et il a eu plusieurs commandes, et alors qu'il n'a peint aucune nativité pendant toute sa carrière, il en peint deux à la fin de sa vie, dont cette très belle Pala d'Hôtel, ce grand tableau peint pour l'église des Capucins de Messine en 1609. 1610.
Oui, il a dû partir ou prendre la fuite de Rome.
Oui, il a eu une vie violente, il a même assassiné un homme. Et il a une carrière
en tout cas,
très courte. Mais
une accusation.
Absolument, oui. Absolument. Et dans ce grand tableau, eh bien, ça illustre toute la révolution caravagesque, un grand coup de poing tout d'un coup dans la peinture, dans le paysage pictural européen, après la Renaissance, après les maniéristes, après les descendants de Michel-Ange et Raphaël, qui développaient une peinture très intellectuelle. Avec Caravage, on change complètement de décor et de monde. La peinture religieuse se rapproche du commun des mortels en nous peignant cette Vierge couchée dans une étable sombre. On voit même sur leur production beaucoup mieux le tableau qu'en réalité, qui est vraiment dans l'obscurité, et les bergers et Joseph qui s'agenouille devant la Vierge, qui tient près d'elle l'enfant très serré contre son corps.
Avec des visages empreints d'une grande humilité ou d'une grande dévotion peut-être.
Absolument, il y a quelque chose de très recueilli.
Très recueilli, oui, en effet.
Avec le rouge de la robe de la Vierge, auquel répond le manteau d'un des bergers, juste les seules notes sonores, et l'enfant qui se blottit, c'est assez rare à cette époque-là, c'est même un peu unique, cet enfant qui tend la main vers le visage de sa mère.
Il a pris des attitudes très naturelles, on pourrait
oui,
dire.
Oui, absolument. Il a peint les hommes dans la rue. C'est ce qu'on lui a beaucoup reproché, c'est-à-dire de désacraliser en quelque sorte les personnages de l'histoire sainte et de prendre pour modèle de simples paysans ou villageois sans attributs particuliers, sans grâce particulière, mais qui pouvaient, d'une certaine manière, comme cela, mieux parler aux fidèles qui venaient admirer ces tableaux.
Oui. Et lui-même, il était très religieux parce
A priori, non.
Excellente réputation.
Non, mais c'était quelqu'un sans doute quand même de très profond.
Oui,
qui avait une
oui.
compréhension de l'humanité assez exceptionnelle pour peindre ces grands chefs-d'œuvre qui sont aujourd'hui parmi les tableaux les plus admirés de la peinture occidentale.
Oui, et puis il a eu une énorme influence sur beaucoup d'autres peintres.
Son œuvre, qui est donc vraiment inscrite dans très peu d'années, donc il meurt en 1610, va avoir une influence mais déterminante sur tout le siècle.
Oui.
Comme on va le voir d'ailleurs.
Comme on va le voir, absolument. Donc on passe à Orazio Gentileschi, qui est né à Pise en 1563 et mort à Londres en 1639. D'ailleurs, je crois qu'il était peintre de la cour d'Angleterre aussi.
Absolument, oui. il a voyagé et il a été appelé à Londres par le duc de Buckingham. Et le tableau que nous regardons là en ce moment, le repos pendant la fuite en Égypte, on connaît quatre versions, l'une donc au Louvre, une autre à Birmingham, une autre encore à Vienne et une autre qui a appartenu un moment au Getty. Et l'une au moins de ces versions ont été peintes pour la cour en Angleterre, l'une pour Charles Ier et celle sans doute du Louvre et l'autre pour le duc de Buckingham. Et c'est après son séjour à Paris qu'Orazio Gentileschi se rend donc à Londres et là va peindre aussi de grands décors. Il va venir aussi avec sa fille Artemisia Gentileschi, qui était aussi une artiste extrêmement renommée. Et donc, Orazio Gentileschi, il adapte en quelque sorte la leçon caravagesque. C'est un caravagisme tempéré, adouci par la leçon florentine, avec des couleurs brillantes, plus aimables, moins rustiques, moins peut-être agressives que les sclères obscurs très violents de Caravage. Et l'on voit ici la mère, la Vierge, que rien ne distingue d'ailleurs comme une Vierge, qui allaite son enfant, qui paraît déjà avoir un certain quelques mois, ce n'est pas un nouveau-né, tandis que Saint Joseph dort renversé sur un gros polochon.
Il est tranquille.
Il est très tranquille. C'est très souvent ainsi que Saint Joseph est représenté.
Et puis au fond, il y a des nuages. Est-ce que ça a une signification particulière?
Mais écoutez, dans d'autres versions, au contraire, ce paysage n'existe pas. C'est une des particularités peut-être de Caravage, c'est justement d'avoir introduit un peu d'air dans ses compositions, alors que chez Caravage, il n'y a jamais de paysage, sauf pour justement une célèbre composition, le repos pendant la fuite en Égypte. Mais sinon, ces scènes sont toujours des scènes d'intérieur qui se détachent sur un fond sombre, et Gentileschi, lui, ajoute un peu de lumière.
Donc voilà pour Orazio Gentileschi, qu'on peut donc admirer, comme vous venez de dire, à Vienne, au Kunsthistorisches Museum,
ou
encore
Musée
une autre
Louvre.
Version au Louvre, et puis aussi en Angleterre. Donc
et en Angleterre, à Birmingham.
À Birmingham. Et Rubens, le grand Rubens, avec une peinture somptueuse, et vous avez choisi de Rubens, donc l'adoration des mages du Louvre.
Oui, alors avec Rubens, on aborde un autre des grands géants de la peinture du XVIIe siècle européen, avec ce très grand tableau de 1,90 m par 2,18 m, qui a été peint pour le maître-autel de l'église du couvent des Annonciades à Bruxelles. C'est une très belle démonstration du goût flamand et baroque comme Rubens a su le porter à son paroxysme, avec cette scène qui nous montre la Vierge debout, tenant l'enfant Jésus, présentant, offrant en fait au regard des mages l'enfant Jésus qui est quasi nu, tandis que les mages, que la légende a décrit comme trois personnages venant de trois continents différents, l'Afrique, l'Europe et l'Asie, se penchent, se prosternent vers cet enfant.
Et puis vous avez évoqué donc les couleurs flamboyantes
des
Peter
couleurs
Paul
très...
Rubens, comme on dit chez nous.
Ce sont des couleurs toujours très vives, très éclatantes, peintes dans une brosse richement empâtée. C'est un pinceau très généreux qui brosse les formes d'une manière assez, comment dire, bruyante, on pourrait dire. Ce n'est pas le recueillement ici de la scène caravagesque, mais au contraire quelque chose en relation avec les fêtes flamandes, par exemple, des personnages richement ornés, une ouverture vers le paysage, des casques qui brillent, des vêtements scintillants comme la manche de satin de la robe de la Vierge.
Oui, vous parlez de casques parce qu'on voit des soldats.
Absolument, à l'arrière-plan, il y a des soldats qui viennent regarder la scène et qui peut-être préfigurent justement le massacre des innocents.
Ah voilà, c'est ça, oui.
Ça pourrait être éventuellement ça. En tout cas, Rubens a représenté cette scène dans un intérieur qui ne ressemble pas tout à fait à une étable. On voit un arche qui se dessine au fond, et puis des soldats qui s'approchent et qui ne comprennent pas, qui sont en dehors du mystère, qui ne comprennent pas ce qui se passe.
Et la Vierge, donc vous disiez, qui est debout, derrière elle, Joseph. Et il y a un des trois mages qui est agenouillé, enfin même deux, on peut dire. Oui,
tandis
enfin,
que
un qui est particulièrement penché sur l'enfant Jésus.
Tandis que l'Africain se détache debout au centre de la toile, avec son turban lui aussi satiné, doré.
Oui, on peut peut-être rappeler à cette occasion que Rubens a fait une série de 24 grands tableaux pour Marie de Médicis.
Oui, un grand cycle de Marie de Médicis pour le Palais du Luxembourg,
oui.
Cycle et grande série que l'on peut admirer aujourd'hui au Musée du Louvre.
Voilà, oui, dont par exemple le fameux « Triomphe de la vérité ».
Oui.
La parfaite union entre Marie de Médicis et son fils Louis XIII. Louis XIII qui était justement le
dauphin,
le grand roi de ce fameux siècle.
Cette première moitié du XVIIe.
Oui, enfin de la première moitié en tout cas. Oui, oui. Alors maintenant, à Londres, vous avez choisi Matthieu, un des trois frères, le nain.
S'agit-il vraiment de Matthieu? Justement.
Ah. Voilà.
À la National Gallery de Londres, ils préfèrent encore mettre sous l'appellation des frères le nain. Vous savez, ils sont trois frères,
oui.
Antoine, Louis et Matthieu, qui ont peint dans le même atelier. Et c'est souvent difficile de départager les mains. Celle-ci, donc, on a aussi supposé qu'elle pouvait avoir été peinte par Louis. Donc, les avis divergent. Et je ne suis pas spécialisée le nain, donc je ne me prononcerai pas, on va dire.
Donc, on dit le nain,
Les frères Lenain, les frères Lenain, pour cette jolie crèche, peut-être très tendre, un peu naïve, qui se situe là cette fois-ci dans un cadre, comment dire, un paysage français et sur lequel nous voyons des architectures antiques qui rappellent la grandeur antique des temples et à côté, au contraire, une scène pleine d'humilité avec la Vierge et Joseph qui se penchent sur la paille sur laquelle est couché l'enfant Jésus et des bergers, un berger assez âgé au premier plan, agenouillé, tandis que deux plus jeunes sont debout. Et l'un regarde vers la gauche et quelque chose qui est hors de la toile. Est-ce qu'il voit les rois mages arriver? Et puis il y a deux petits anges très mignons avec des petits nez charmants qui sont aussi en train de joindre les mains auprès de l'enfant Jésus.
Et au fond, il y a une lumière, enfin un paysage.
Très clair.
Vague paysage d'ailleurs, c'est assez mystérieux. Est-ce qu'il s'agirait d'un paysage ou d'une ville, des murs peut-être?
C'est un paysage un peu comme les Lenains qui sont originaires de Laon, en Champagne, et des paysages sans relief pratiquement, assez sobres, une campagne verte qui se détache, un peu une campagne française. Nous sommes loin de la Palestine, de Bethléem. Et puis à droite, il faut signaler ce petit âne charmant. C'est aussi souvent pour les peintres l'occasion de peindre des animaux et d'exprimer des tas de sentiments.
Oui, bien sûr, souvent là, on trouve l'âne et le bœuf.
Voilà,
oui,
alors à droite, il y a cet âne très sage. Et le bœuf est là aussi, qui est là, qui réchauffe, là aussi, selon les textes, qui réchauffe l'enfant Jésus par son souffle.
C'est une magnifique composition.
Très vraiment simple, très centré sur
l'enfant
Jésus.
Et ça mérite d'être mieux connu. Hein. Heureusement, on peut le faire à Canal Académie, grâce à vous. Et donc là maintenant, je voudrais que vous nous parliez de Zurbaran, parce qu'il a fait un magnifique tableau. Moi, personnellement, j'adore Zurbaran. Et vous avez choisi l'adoration des bergers et l'adoration des mages qu'on trouve à Grenoble, où d'ailleurs, il y a quatre importants Zurbaran. Il y a aussi la fameuse Annonciation.
Absolument. Oui, on ne pouvait pas évoquer les nativités européennes sans passer par l'Espagne. Et Zurbaran est un des grands artistes du siècle d'or espagnol. Et il a peint un cycle de toiles sur l'enfance de Jésus pour la chartreuse de Nuestra Señora de la Dépension à Jerez de la Frontera en 1638. C'est un immense retable dans lequel étaient inscrites autrefois 6 grandes toiles par Zurbaran et 3 sont en effet conservées aujourd'hui à Grenoble. Il y a donc cette adoration des bergers, encombrée par une multitude de personnages, de bergers et bergères aussi, qu'il faut signaler. Et ce qui est typiquement espagnol, les caractéristiques, c'est peut-être la nature morte, à gauche, en bas, dans un panier, des œufs blancs, allusion peut-être à la fertilité, un pot d'eau avec un bol qui repose dessus, et puis à droite, un agneau aux pattes liées, là aussi peut-être préfiguration du sacrifice et de la passion. Et l'enfant est dans un panier avec de la paille et la mère est en train d'ouvrir les langes, de le découvrir. Là encore une fois, ce beau geste que l'on retrouve d'une toile à l'autre.
Dans une lumière magnifique et on retrouve le caravagisme justement dans ce tableau, me semble-t-il.
Absolument.
Presque le clair-obscur.
Et puis aussi dans cette aspiration qu'il puise dans les types paysans, quelque chose de très authentique et très proche justement de ce que les fidèles pouvaient comprendre. Et puis, au second niveau, dans la partie supérieure, un concert d'anges avec l'un en robe rouge, que l'on a décrit comme l'ange Raphaël, jouant de la harpe. Et entre les deux niveaux, entre le niveau terrestre et le niveau céleste, d'autres anges qui jouent du théorbe sans doute et qui chantent. Donc un mélange entre le quotidien et le sacré, entre quelque chose d'un peu surnaturel et au contraire cette scène très simple de la Vierge et son enfant et puis à gauche ces petits bergers, cette bergère qui nous regarde avec un sourire un peu édenté.
Oui, mais là dans ce tableau, dans l'adoration des bergers, je trouve que par rapport au reste des tableaux de Zurbaran, on trouve des couleurs beaucoup plus vives que d'habitude, non ?
Ah, c'est un peintre qui a beaucoup aimé ses couleurs un peu stridentes. Hein. C'est même quelquefois, il est un peu naïf aussi bien dans ses personnages, dans son style un petit peu cassé, cassant, anguleux. Et aussi, c'est cette palette très vive, très franche, qui ne joue pas du tout sur des harmonies acidulées ou subtiles, mais au contraire assez directes.
Oui, mais souvent on trouve un Zurbaran sombre, très austère, avec des tableaux
austère,
de religieux.
Austère, absolument. Mais par exemple, pour ses saintes, il y a toute une série de saintes qu'il a pu représenter. Elles ont des costumes quand même superbe, avec des couleurs qui tranchent justement sur un fond plus sobre.
Et où se trouve la plus grande collection de Zurbaran? C'est peut-être
à Madrid, au Prado.
En tout cas, là, donc, vous nous avez parlé de l'adoration des bergers, et puis il y a aussi à Grenoble, au Musée des Beaux-Arts, l'adoration des mages.
Voilà, qui vient du même grand retable de Jerez de la Frontera, Donc, cette belle scène que nous a décrite saint Matthieu, autant la nativité, l'adoration des bergers, c'est plutôt chez saint Luc. L'adoration des mages, c'est chez saint Matthieu qu'il faut se reporter pour en trouver le récit, qui ne précise pas le nombre des mages, mais donc la tradition a fait que finalement ce sont trois mages qui représentent un peu tous les mages qui ont pu venir. Et là, c'est la Vierge et saint Joseph sur la droite. La Vierge tient sur ses genoux un enfant Jésus assez souriant, tout en blanc vêtu, devant lequel s'agenouille un vieux mage dans une robe très riche, avec des riches brocarts et le haut en hermine. Il a posé son chapeau et son pot de myrrhe tout dansant. Et puis derrière lui, l'Africain et le troisième mage, tous avec des costumes assez bariolés, on pourrait dire, qui les distinguent très bien.
Oui, assez riches. Oui.
Très riches, avec beaucoup de détails, des bijoux, des détails d'armure, des broderies.
Pas du tout austère, alors.
Non, quelque chose d'assez flamboyant, qui devait bien se détacher dans ce grand retable doré, au milieu des menuiseries de bois, qui devait avoir extrêmement beaucoup d'allure.
Mais quand j'ai parlé tout à l'heure de flamboyant, en parlant de Rubens, ça n'a absolument rien à voir.
En même temps, on sait qu'à l'époque, il y avait quand même un axe Flandre-Espagne assez important, et les échanges. Mais Zurbarán est un peintre qui a sa personnalité propre et son pinceau ne ressemble pas du tout à celui de Rubens. Mais il y a même ce goût, en effet, pour des couleurs très vides qu'on trouve aussi chez Velázquez, par exemple, son contemporain.
Oui, ils étaient amis, je crois.
Oui, ils se connaissaient.
Oui. Je vous invite à nous parler de Philippe de Champaigne. Philippe de Champaigne, dont nous trouvons une nativité au Musée des Beaux-Arts de Lille et puis une adoration des bergers à la cathédrale de Rouen.
Oui, alors ce sont deux tableaux assez proches, mais c'est intéressant de voir comment Champaigne, ce grand peintre, un des peintres peut-être les plus religieux dans le XVIIe siècle français, vous savez qu'il était très proche du mouvement janséniste.
Oui, on lui reproche presque.
Et ce peintre, parce qu'il avait sa fille qui était rentrée chez les sœurs de Port-Royal, ce peintre a représenté cette nativité qui aujourd'hui est à Lille en 1643. C'est une commande qui était passée par le président de la Cour des Comptes, Jacques Tuboeuf, pour sa chapelle dédiée à la Vierge à la Maison de l'Oratoire, rue Saint-Honoré, à Paris. C'est un tableau donc d'autel, d'une piété assez fervente, une composition simple où la Vierge et Saint-Joseph se penchent donc vers l'enfant Jésus, complètement emmailloté. Même ses bras sont pris dans le bandelage, il ne peut absolument pas bouger. Et derrière lui, on distingue le bœuf qui, avec de son museau, s'approche de la tête de l'enfant, d'où rayonne de la lumière pour bien exprimer le caractère tout à fait sacré de cet enfant, de ce modeste enfant, mais qui en fait est le sauveur. Et puis, en second niveau, des anges qui se penchent eux aussi sur la scène et qui vont sans doute annoncer, d'ailleurs on le voit à l'arrière-plan, qui vont aller annoncer aux bergers la bonne nouvelle et qui vont les inviter à suivre l'étoile qui est au-dessus de la crèche.
Donc on trouve souvent cette composition, ou cette double composition entre ciel et terre.
Caravage avait éliminé cette intrusion du surnaturel, mais les artistes, notamment les Français et les Flamands, ont aimé réintroduire dans leur composition pour plus de démonstration, pour plus de pédagogie. Vous savez aussi, le XVIIe siècle, la peinture religieuse du XVIIe siècle est très influencée par la contre-réforme et par le fait qu'il faut que les images doivent avoir un rôle et doivent enseigner. Et donc, ces anges sont un peu les intermédiaires entre le ciel et la terre et ils jouent un rôle ainsi didactique pour permettre de comprendre que la scène n'est pas une banale scène d'un père et d'une mère avec un enfant, mais vraiment une scène sacrée.
D'ailleurs, à ce sujet, on peut peut-être mentionner qu'il y a actuellement, encore pour quelques mois, une importante rétrospective de Philippe de Champaigne à Genève, au musée Rath.
Elle était au musée de Lille il y a quelques temps, et maintenant elle est à Genève jusqu'au 13 janvier. C'est une très belle rétrospective avec une sélection d'œuvres importantes.
Oui. Donc c'est vraiment un modèle de classicisme français,
Philippe
de Champaigne.
Absolument.
N'oublions pas, nous sommes à Canal Académie. Il a fait, je ne sais pas, une série de tableaux du cardinal
de Richelieu,
Richelieu.
Absolument. Les tableaux très célèbres.
Peut-être les tableaux les plus connus
qui ont été souvent répétés. Il y en a un peu partout, à la Sorbonne, au Louvre, à la Nationale Gallery de Londres. Il y a son portrait en pied, à mi-corps. Ou simplement des études de tête. Champaigne a été le grand portraitiste du cardinal de Richelieu.
Oui.
Le tableau de Champaigne à cathédrale de Rouen, qui était peint sans doute une ou deux années après celui de Lille, en 1644. Et là, c'est intéressant parce qu'il se trouve toujours in situ. Et c'est vraiment très rare aujourd'hui de trouver in situ des œuvres qui ont été peintes justement pour l'endroit où il se trouve toujours.
Oui.
Absolument. Et c'est un immense tableau de 3,50 m sur pratiquement 3 mètres.
Qui est donc dans
au-dessus
d'un hôtel.
Voilà, absolument, qui domine
dans
l'hôtel, dans le cœur, dans la chapelle axiale de la cathédrale de Rouen, on peut le voir.
Il est encore bien conservé ?
Il est très bien conservé, il a été restauré plusieurs fois. Il y a eu des expositions consacrées à la peinture du XVIIe siècle, la peinture religieuse, quelques années à Rouen. Et puis aussi, il figure à la rétrospective, justement, donc, que vous signaliez à Genève. Et cette fois, ce n'est pas une simple nativité, mais c'est une adoration des bergers, qui sont assez nombreux, regroupés autour de la Vierge, qui, là encore une fois, fait ce geste qui dévoile l'enfant Jésus au regard des bergers qui se prosternent, tandis qu'un agneau, comme chez Zurbaran, on retrouve cet agneau, allusion bien sûr au métier des bergers, mais aussi au sacrifice, l'agnus Dei, le sacrifice de l'agneau, qui préfigure la passion du Christ.
Avec regret, nous quittons donc Rouen, la cathédrale et Philippe de Champaigne, et nous allons porter notre regard maintenant sur Georges de la Tour. C'est le dernier artiste que vous avez choisi. Georges de la Tour est né en 1593 et il est mort en 1652. Vous avez choisi l'adoration des bergers au Louvre et le nouveau-né au Musée des Beaux-Arts à Rennes.
Oui, la Tour, c'est peut-être aujourd'hui le peintre le plus célèbre dans cette catégorie d'œuvres. La spiritualité est très forte. Le tableau du Louvre a été peint vers 1644, c'est un tableau en largeur qui, vous savez, la spécialité de Georges de la Tour, c'est de peindre des nocturnes. Son œuvre se répartit en deux styles, les diurnes et les nocturnes, et c'est sans doute les nocturnes qui sont aujourd'hui les plus célèbres et qui peut-être peuvent le mieux refléter une certaine spiritualité. Et nous avons ici la Vierge, donc toujours dans cette robe rouge, aux plis cassants, cubiques. Vous savez que la Tour a été très regardée par les artistes cubistes modernes, et notamment Picasso ou Derain, et qu'ils ont beaucoup apprécié ce style assez stylisé. Et donc la Vierge joint les mains, elle est très grave, très sérieuse, et tandis que l'enfant, complètement mailloté, là aussi, les bras pris dans les langes, et même la tête est aussi prise dans un petit bonnet et posée sur de la paille. Et autour, les bergers, la bergère, font cercle avec Saint-Joseph à droite qui tient une bougie. Et la flamme de la bougie se distingue à travers la main de Saint-Joseph. Donc ce très beau détail de la transparence de la main avec la flamme.
Il s'est beaucoup
aussi
servi de la bougie, Georges de la Tour.
C'est ça.
Oui, pour donner une plus grande expressivité peut-être au sujet.
Et créer une atmosphère très, très particulière. Oui. Et puis là aussi, bien sûr, la flamme. Ici, il n'y a pas de rayon ou d'auréole autour de la tête de l'enfant Jésus, cette bougie justement fait peut-être office, remplace ce que signifiait l'auréole. On voit aussi une bergère, une femme qui tient une sorte de terrine dans laquelle on met la farine et qui tient ce plat en regardant l'enfant. Et il y a un autre berger très simple qui esquisse un sourire. C'est sans doute le seul sourire de toute l'œuvre de la Tour. Et puis il y a cet agneau avec cette petite tête qui s'approche de l'enfant Jésus, un adorable détail, très tendre, très doux. C'est une scène très profonde en fait. Et puis, le nouveau-né de Rennes, peint un peu plus tard, sans doute une des images les plus reproduites de Georges de la Tour, là encore plus concentrée, sur un fond complètement obscur. La Vierge, là, cette fois, tient l'enfant Jésus complètement mailloté sur ses genoux, tandis que une femme, sans doute Sainte Anne, tient la bougie, là encore une fois. Et on ne voit pas la bougie, on ne voit pas la flamme, on voit simplement son reflet sur le buste de Sainte Anne et sur la tête de l'enfant Jésus, qui en fait une tête presque porcelainée. On voit son front qui brille. C'est une image assez exceptionnelle par son synthétisme.
Ça, c'est une scène vraiment extrêmement
recueillie
absolument.
Le peu de personnages, la concentration, le fond vraiment complètement
autour de
sombre.
L'enfant Jésus,
une sorte de caravagisme poussé à l'extrême. Il y a vraiment juste le strict nécessaire et cet enfant emmailloté, très frêle, très fragile, qui est en fait le sauveur.
Est-ce que vous ne voulez pas nous raconter un tout petit peu l'extraordinaire aventure du peintre Georges de la Tour ? Parce qu'il a été donc assez célèbre de son vivant,
il a gagné très bien sa vie, voilà.
Oui, on lui aurait même peut-être reproché d'être un peu spéculateur sur les bords.
On lui reprochait aussi d'être assez violent avec les gens, des alentours. Il chassait, il aimait bien la chasse, il aimait la bonne chair et il chassait notamment à travers les champs de ses voisins, des paysans voisins qu'il détruisait finalement. Et c'est peut-être pas forcément un personnage très sympathique.
Alors que ses tableaux sont absolument d'une grande intériorité. Mmh. On est très étonné de cette différence. Mais après, après sa mort, ou enfin en tout cas quelques temps après, il a complètement disparu.
Absolument.
On l'a même confondu, enfin ses toiles qui ont été dispersées
un peu
aux quatre coins du monde.
Elles se sont assombries comme beaucoup de toiles et certaines ont été reléguées dans les greniers
et
oubliées. Et c'est un artiste qu'on a redécouvert simplement au siècle précédent, peut-être
par
les années 30.
Érudit,
voilà.
C'est une histoire assez fantastique.
Absolument, il y a des redécouvertes comme ça, il y a des modes qui font qu'il y a des artistes que l'on oublie et que l'on ressuscite quelque sorte et qui deviennent justement au contraire des grandes vedettes.
Oui, c'est un vrai feuilleton parce que c'est un érudit allemand, je crois, qui a repéré un tableau et il en a vu un autre et il lui semblait que c'était peut-être de la même signature.
Après, il faut reconstituer, puis il faut restaurer.
Et après, il faut les retrouver, les regrouper. Enfin bref,
c'est toute une aventure.
Oui. Il y a d'ailleurs, je voudrais indiquer ça à nos internautes, à nos auditeurs, que nous allons mettre un petit texte sur le site internet parce que Pierre Rosenberg, avec qui vous avez travaillé pendant de longues années aussi.
Ah, c'est un des grands spécialistes de Georges de la Tour.
De Georges de la Tour, enfin du 17e en général, mais de Georges de la Tour, entre autres, Poussin, etc. Et il a fait une communication il y a quelques années, en 97, dans une séance publique annuelle des 5 académies, où il parle justement de Georges de la Tour et de toute son aventure, et où il cite un texte d'Hippolyte Taine au sujet donc du talent ou de l'œuvre de Georges de la Tour. Je vous lirai juste une petite phrase au sujet du nouveau-né.
Tableau de Rennes, justement.
On a parlé
de manière merveilleuse.
Alors, il dit, ce qui est absolument sublime à Rennes, c'est un tableau hollandais, le nouveau-né, deux femmes regardant un petit enfant de 8 jours, endormi. Tout ce que la physiologie peut dire sur les commencements de l'homme est là. Rien ne peut mieux exprimer ce profond sommeil absorbant, comme celui dont il dormait, le pauvret, 8 jours auparavant, dans le ventre de sa mère, etc., etc. Je vous laisse le soin de le découvrir sur notre site internet, le passage que Pierre Rosenberg donc cite dans cette communication.
Passage.
Oui. Donc malheureusement, nous arrivons à la fin de notre parcours des maîtres du XVIIe siècle, enfin des principaux.
Un florilège,
oui. Mais peut-être avant de nous pencher, nous aussi, sur la crèche, peut-être un trait d'union entre tous ces maîtres du XVIIe.
Ils ont chacun leur couleur, mais c'est vrai, le XVIIe est un siècle très profond, mais qui s'adresse directement à l'homme, au cœur de l'homme, alors que la Renaissance s'intéresse plus à l'intellect. Le XVIIe a fait une sorte de révolution, et grâce à Caravage, ce sont des scènes qui nous parlent immédiatement. Il n'y a pas une foultitude de symboles compliqués à interpréter en fonction de sources anciennes. Ce sont des scènes immédiates.
C'est vraiment la marque de la contre-réforme.
Absolument, absolument. Ils partagent tous cet aspect très direct, immédiat, qui nous parle directement, avec des personnages que l'on pourrait rencontrer encore aujourd'hui, habillés simplement, sans trop de décorum.
Oui.
Et avec beaucoup, on insiste plus sur le recueillement que sur finalement la glorification ou, disons, tout l'appareil, disons, richissime que l'on pouvait trouver dans certaines scènes de la Renaissance avec beaucoup d'or et beaucoup de démonstrations, de cortèges. Ici, on est plutôt dans la concentration, dans des scènes resserrées.
Oui. En tout cas, merci beaucoup, Marianne Dupuy-Vacher, pour vos lumières qui n'ont rendu que plus lumineux encore les œuvres des maîtres du XVIIe siècle. Et l'approche de Noël en est déjà tout éclairée et l'occasion est précieuse de souhaiter de bonnes fêtes à nos auditeurs de Canal Académie. À nos vœux les plus chaleureux d'amour et de paix, nous joignons nos remerciements pour leur fidélité.